Merci par avance de votre participation à cette présentation. Je ne sais pas si le mot conférence convient. Je vais plutôt vous convier à ce que nous regardions ensemble des images. C'est déjà l'esprit de l'exposition Ciel Mur des Cultures que de regarder des images, à la fois les images que l'homme a créées pour représenter le ciel, et puis les images que nous arrivons à capter du ciel, aussi bien qui représentent ce que l'on voit à l'œil nu, comme cette première image, ou des images qui ont été obtenues par des appareils plus ou moins scientifiques. Et d'ailleurs, une des premières questions qu'on peut se poser au cours de cette projection, c'est de se demander s'il y a vraiment une différence entre les images que des civilisations qui nous ont précédées ont créées pour représenter le ciel, qui sont finalement des représentations nées de ce qu'on y projette, et les images scientifiques qui sont aussi des représentations. Rien de ce que l'on fait comme image n'est autre chose qu'une représentation du ciel. Et là, c'est une photo toute simple prise d'un balcon parisien d'un coucher de soleil. Il existe, on le voit comme ça, mais quand on le présente, on insiste sur des reliefs, on insiste sur des volumes, et on propose un regard particulier. Alors, cinq thèmes d'importance relativement différente, hein, dans les images que je vais vous présenter. La première série concerne le ciel tel qu'on le voit. La première image que je viens de vous présenter, c'est un coucher de soleil que nous connaissons tous sur Paris. Cette deuxième image, c'est un ciel étoilé avec la Voie lactée dans une zone sans doute tropicale. Un ciel qu'on n'a plus tellement l'occasion de voir malheureusement à Montreuil. Mais dans cette première partie, nous allons voir des images que l'on peut contempler encore dans les régions du ciel, de la Terre qui ont la chance de ne pas être trop illuminées, et aussi des images du ciel tel qu'on l'a vu pendant des millénaires, à l'époque où il n'y avait pas de lumière pour en occulter la vision. Le deuxième thème, ça sera la question du ciel mur des cultures. Et ayant vu ces images, voyant ces images, comment est-ce que notre imaginaire s'en empare? Et comment est-ce que ce que l'on y voit construit nos cultures? Ensuite, on franchira le miroir du ciel. Pour beaucoup de civilisations, le ciel est un gigantesque système posé au-dessus de nos têtes, sous lequel nous vivons. Il a fallu attendre les derniers siècles seulement pour prendre conscience que nous n'étions pas sous une sphère des fixes où les étoiles étaient peintes, mais nous étions partie prenante d'un espace dans lequel nous bougions. Et donc on a brisé un miroir et on est passé d'un ciel fixe dans lequel la Terre et quelques planètes se meuvent à un espace dans lequel tout bouge. Ça sera la troisième partie. Et puis les deux derniers thèmes, c'est plutôt deux axes de réflexion. Qu'est-ce qui change dans des sociétés que l'on appelle scientifiques, comme les nôtres? Qu'est-ce qui change profondément dans le regard sur le ciel? Et vous connaissez sans doute une des définitions de la science, aujourd'hui, qu'on doit à un philosophe épistémologue qui s'appelle Karl Popper. Sa définition, c'est celle qui est la plus acceptée aujourd'hui dans la communauté scientifique, c'est de dire qu'on appelle science quelque chose dont on aurait pu prouver que c'était faux. La science n'est pas quelque chose dont on peut être sûr que c'est vrai. C'est quelque chose que l'on peut mettre en question. Et si jamais c'était faux, alors on le verrait. Donc on réfléchira quelques instants sur cette question-là. Est-ce que c'est ça qui a changé en quelques millénaires? Et est-ce que c'est ça que l'astronomie a contribué à construire? Et puis, dernier point que j'appellerais plaresque clin d'œil, si ce n'était pas un clin d'œil de clown triste, ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des images extraordinaires qui sont en train de se diluer. Effectivement, un ciel comme celui que vous voyez là n'est plus à notre portée de tous les jours, alors qu'il était le compagnon des gamins qui, il y a un siècle, revenaient de l'école tous les soirs en hiver. et que c'est ça qu'ils voyaient, et que leur imaginaire, leur conception du monde, leur regard sur leur lieu de vie était marqué par de telles images. Aujourd'hui, c'est plutôt, je dis pas l'écran cathodique puisqu'il est même plus cathodique, c'est l'écran plasma qui détermine ce que l'on voit en rentrant de l'école. Ça, sans doute, ça ne construit pas la même image de l'univers. Premier thème, donc le ciel vu de la Terre, un clin d'œil pour dire que très près d'ici, là, dans le parc de la Villette, on voit le ciel comme dans beaucoup d'endroits pendant les nuits des étoiles. Il y a encore des gens qui s'allongent dans une prairie, comme disait Jean-Claude Guiraudon, pour profiter du spectacle céleste. Si on est un peu plus loin, dans quelques parcs naturels régionaux, ou encore un peu plus loin, dans des zones où l'activité humaine n'est pas trop intense, on voit un ciel comme ça. On voit des étoiles, on distingue faiblement à l'œil nu leurs couleurs. Là, la photographie fait ressortir beaucoup plus les couleurs. Mais ce spectacle est un spectacle très courant. On voit dans le ciel des objets bizarres. On ne voit pas que des étoiles qui se couchent lentement ou se lèvent lentement au fur et à mesure que la nuit passe. On voit aussi des traînées lumineuses. On voit pas seulement des traînées lumineuses comme celles qu'on vient de voir qui sont lentes, qui restent visibles toute la nuit. On voit aussi des étoiles filantes. Là, vous avez dans la constellation d'Orion une toute petite étoile filante. On voit facilement et très bien la Lune. Une Lune parisienne, la précédente était une Lune dans l'Antarctique, mais voilà une Lune parisienne au-dessus de Montreuil. On voit des choses bizarres, on voit des choses hybrides dans le ciel. La Lune, les étoiles, des éclairs. Encore une Lune au-dessus de Montreuil, au-dessus de la BNF, là, plutôt. La Lune peut prendre des aspects très bizarres quand elle se lève. Ça, c'était hier soir. Avant-hier soir, pardon. Et puis, le Soleil se voit aussi, très facilement. De temps en temps, il en manque un morceau. Ça peut provoquer de grandes terreurs. D'autant qu'il peut manquer l'intégralité du Soleil, et que là, on peut se poser de nombreuses questions sur ce qui se passe et sur le fait qu'il pourrait ne jamais revenir. Dans le ciel aussi, on voit des alignements bizarres. Là, vous voyez la Lune assez facilement, mais en dessous, en biais, vous voyez quelques points brillants. Ce sont des planètes qui sont alignées, ce qui suggère que il y a des tout petits points. Je vais vous les montrer quand même. Le soleil n'est pas encore couché, donc on les voit disparaître à peine, mais ça suggère qu'il y aurait une ligne particulière dans le ciel. Voilà, cette fois à l'équateur, la Lune suivie de deux planètes. Encore une Lune avec des planètes qui sortent des nuages. La Voie lactée, comme on l'a vu tout au début. Des formes qu'on a données, auxquelles on a donné des noms, des formes qu'on a créées dans le ciel. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, voilà la grande ours. Et puis on voit des objets très bizarres, même quand on est dans les yeux très éclairés. Tout à l'heure, vous aviez vu ces premières images, je n'avais pas dit que c'était des comètes. Pour ceux qui le savent, vous les reconnaissez, là, avec une comète très bien visible dans une zone particulièrement éclairée. C'est en Val d'Oise, à Théméricourt. Voilà des observateurs qui finissent une bouteille de vodka en regardant une comète dans une forêt du Val d'Oise également. Et puis voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'extraordinaire comète qui vient de briller dans le ciel de janvier et qui a illuminé vraiment tous les crépuscules, la comète MacNaug, qui est semblable à les plus grandes comètes qu'on a vues notées dans les derniers millénaires. Donc la voilà visible en Afrique du Sud. La voilà au-dessus de Santiago du Chili. Vous voyez la Lune qui se lève à l'horizon avec le petit croissant. Donc vous avez une idée de la luminosité de la comète sur cette photo de Stéphane Bizard. Vous voyez qu'elle est plus brillante en fait que la Lune elle-même et qu'elle est visible même au-dessus d'une ville comme Santiago du Chili. Et la la voilà visible au crépuscule quand le soleil n'est pas encore couché. Donc il y a des spectacles qui se produisent. Ces images-là, elles ont été prises exactement il y a 15 jours. Hein. Vous voyez la date, là, on est le 12, on est le 12 janvier à 16h19, temps universel, en Italie. Ce sont des spectacles incroyables qui existent encore, sur lesquels on n'a plus l'attention à tirer parce qu'on a autre chose à regarder. Et il y a des choses encore plus extraordinaires qui existent dans le ciel. Quand on a la chance d'habiter près des pôles ou qu'on a la chance que le soleil est une activité très importante, il peut produire des lumières visibles dans la nuit et créer ces draperies caractéristiques des pôles. C'est pour ça qu'on les appelle des aurores polaires. On peut voir des groupes d'étoiles filantes, des pluies de météorites. Alors là, la photo traduit une exagération parce qu'effectivement, elle photographie les étoiles pendant quelques minutes. Donc, les étoiles filantes, on les accumule pendant quelques minutes. Mais le dessin d'à côté est un dessin de la plus extraordinaire pluie d'étoiles filantes recensée de nos jours, qui est celle de novembre 1833, où on a vu quelque chose comme 10 000 étoiles filantes pendant un quart d'heure à des endroits précis sur la Terre. Là, c'est une image au-dessus des chutes du Niagara. Et puis voilà quelque chose d'encore plus extraordinaire, un mélange d'images qu'on voit dans le ciel. La traînée d'une étoile filante, un bout de l'énorme queue de la comète MacNaug il y a quelques jours. Et encore plus, un mélange de la même comète avec une aurore polaire. Là, on doit être en Nouvelle-Zélande, il y a 3 jours. C'est Monsieur Yanuto qui a pris cette superbe image. Alors, j'ai évidemment, dans cette première partie, je vous ai montré ce qui se voit dans le ciel. Évidemment, il y a une exagération sans doute due à la photo. Ce sont des photos qui sont prises pratiquement toutes. La seule qui ne l'était pas, c'est la photo de l'éclipse totale de soleil. Sinon, c'est des photos qui sont prises avec des appareils à grand champ. C'est-à-dire que la vue que vous avez sur ces images, c'est à peu près la vue qu'on a en angle, à l'œil nu. Hein. On est un peu plus agrandi quand vous avez vu les levées de lune. Puisque là il y a un petit téléobjectif, mais disons que ce sont des images de choses que l'on peut voir à l'œil nu. Ce qui est exagéré, c'est les couleurs, puisque les appareils photo numériques ou argentiques voient beaucoup mieux les couleurs faibles que l'œil nu. Notre œil nu est peu sensible aux couleurs dans les éclairages très faibles. On voit avec des cellules qui voient surtout les différences de lumière et pas tellement les couleurs. C'est seulement en plein jour que notre capacité à voir les couleurs est plus grande. Donc les images que vous avez vues sont exagérées par rapport à notre perception à l'œil nu en couleur. Et puis évidemment aussi, on va un peu plus loin en sensibilité puisqu'on a des temps de pause, mais tout ce que vous avez vu a des temps de pause très courts, hein, de quelques secondes ou au maximum quelques minutes. Donc c'est pas exactement ce qu'on voit à l'œil nu, on est un tout petit peu plus fin. On descend un peu plus dans les faibles lumières. La voie lactée que vous avez vue là est un peu plus visible qu'on ne la voit à l'œil nu, mais à peine. Tout ça pour dire que toutes ces images, ce sont les images, à peu de choses près, qui ont sollicité l'imaginaire, qui ont sollicité la réflexion, qui ont sollicité l'interrogation, l'émotion, la peur de nos ancêtres partout sur la planète. Là, vous allez me dire que cette image incroyable de l'aurore boréale avec la comète MacNaug, je triche. Et c'est une image fantastique, juste à part le fait qu'elle a été prise il y a 5 jours. Donc c'est peut-être fantastique, mais enfin c'est arrivé il y a 5 jours. Et c'est arrivé, bien entendu, je ne sais pas dire combien, au moins des milliers, voire des centaines de milliers de fois depuis que l'homme regarde le ciel. Admettons même que ça n'arrive qu'une fois tous les 200 ans. Une fois tous les 200 ans, depuis que l'homme existe, ça s'est passé souvent. Donc, l'imaginaire de l'humanité, il est marqué par cet ensemble d'images-là. Et évidemment, aujourd'hui, on a la chance d'être ici bien au chaud, dans une maison accueillante, à écouter quelque chose de rassurant. Je ne vais pas me transformer en King Kong et mordre tout le monde. Je ne vais pas tout d'un coup vous dire que c'est l'âme de nos morts qui traverse le ciel. Donc ici, nous avons la possibilité de regarder ça de manière assez froide, distanciée. Si vous imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête sur la mer, dans les tropiques, ou d'ailleurs dans une tempête sur la route du sel perdue vers Dunhang, ou la route de la soie vers Dunhang, ou la route du sel dans le Ténéré, vous imaginez qu'évidemment ces visions se transforment complètement. Et que, vues dans un autre contexte que le simple confort, elles se regardent autrement. Alors, l'homme a construit des représentations du ciel. Ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente la déesse Nout, haute Égypte, dont le corps est la voûte céleste. Et en dessous, vous voyez le bateau qui ramène le soleil à son point de départ pour la journée du lendemain. Et vous voyez donc que, évidemment, il y a une explication très simple. Ce que l'on voit dans le ciel est peint sur le corps de la déesse. Route de la soie Dunhang, 8e siècle. La première carte du ciel avec des commentaires écrits. Pour ceux qui auraient une habitude des constellations, en bas, vous pouvez reconnaître la constellation d'Orion, le chasseur céleste, avec son baudrier, son épée, ses pieds et ses mains, à côté la couronne. Et en haut, vous avez l'ensemble des constellations décrites. Une approche donc un peu différente de celle du corps de la déesse. Le ciel comme un ensemble de figures auxquelles on a donné des noms qui se décrivent. Un autre ciel, c'est celui des Pawnee, des Indiens Pawnee, de Skidi Pawnee d'Amérique du Nord. C'est pas si vieux, hein. D'abord les Pawnee, on a tout brûlé, tout détruit, et les Pawnee aussi d'ailleurs. On a récupéré cette peau, c'est une peau tannée. C'est au centre la Voie lactée, sans doute les Pléiades en haut. Et on raconte, les ethnologues et les Pawnee racontent, que la Voie lactée était le chemin qui permettait aux blessés de passer dans la mort. Et qu'on les accompagnait et qu'on regardait le voyage en regardant le ciel avec ce type de carte. J'en disais un mot tout à l'heure, 55 tonnes, la Pierre del Sol, elle explique les rythmes des jours, elle explique les rythmes du soleil et de la lune, comme d'ailleurs tous les calendriers sur Terre. Le rythme du temps nous est donné par les saisons, d'abord le jour, le lever, le coucher du soleil, ensuite les saisons, avec des phénomènes qui se répètent, qu'on essaie de prédire, qui sont les crues du Nil, les crues des deux fleuves de Mésopotamie, qui sont des moments de débâcle, qui sont des moments de grande sécheresse. Et puis l'autre rythme, c'est le rythme de la lune. Et toutes les civilisations ont essayé de mettre sur le même dessin, en leur donnant une importance différente, ces deux rythmes. Souvent, elles l'ont mélangé avec un autre rythme. Dans certaines religions, il y faisait 7 jours. C'est le rythme de la création. Et tous les calendriers sont un mélange de ces représentations de leur cosmogonie, de leur mode de naissance du monde, et des rythmes observés dans le ciel. Donc la Pierre del Sol indique à la fois tous les événements qui se passent dans le ciel, tout ce qu'il faut savoir pour l'agriculture, à quel moment il faut couper, moissonner, planter, et aussi, ce qui va de pair évidemment, à quel moment il faut célébrer et révérer les dieux, à quel moment il faut faire les sacrifices, et à quel moment il faut que les rythmes de la vie se déroulent. Représentation scientifique à nouveau maintenant, Abdarrahman al-Sufi, 960, ce sont les descriptions, ce sont les mêmes constellations que celles qu'on a vues tout à l'heure dans les images de la route de la soie. En fait, la plupart des civilisations se sont repérées dans le ciel. C'était sans doute impossible de vivre sans essayer d'amadouer le ciel et sans essayer de savoir le dénommer. Les ethnologues racontent que la plupart des civilisations ont construit des figures dans le ciel. Il semblerait que seules quelques-unes d'entre elles aient donné des noms individuels uniquement individuelles aux étoiles. Donc toutes les civilisations, il y a des noms individuels. Hein. Mais la plupart des civilisations ont constitué des figures. Et les figures qui sont encore utilisées aujourd'hui, par les scientifiques les plus aguerris, sont principalement les figures nées en Mésopotamie, en Akkadie, fort exactement, quelques 5000 ans avant nous, et nous avons hérité de ces constellations qui peuplent notre zodiaque, qui sont le bélier, qui sont la balance, qui sont le sagittaire, qui sont le scorpion, etc. Là, vous voyez à la fois Andromède et le sagittaire. Et là, ces constellations, elles ont été donc principalement celles que l'on voit dans notre hémisphère. On les doit donc à la Mésopotamie et on les a écrites sous une forme écrite dans des tablettes sumériennes à cette époque-là, et ensuite on les a réécrites sous la forme de grands poèmes. Ce sont les phénomènes d'Aratos au 5e siècle avant Jésus-Christ qui donnent la première description détaillée du ciel après les cunéiformes sumériens. Et cette description est toujours valable aujourd'hui. Elle a été transmise donc par Ptolémée, Hipparque. Elle est passée par les intellectuels, évidemment, arabes et musulmans au 8e siècle, avec des grands traités comme ceux d'Abdarrahman al-Sufi ici. Elles sont remontées par les tables alphonsines, Alphonse XIII en Espagne, et elles sont remontées dans le monde occidental, et elles ont été définitivement écrites en 1920, je crois, par l'Union Astronomique Internationale, et ce sont les mêmes descriptions qui se sont suivies. Elles ont essaimé, évidemment, par la route de la soie. Elles ont essaimé, évidemment, en Amérique du Nord, dans la destruction des civilisations précolombiennes. Et finalement, il y a très peu de descriptions complètes connues du ciel, hormis ces grandes descriptions qui se sont imposées un peu partout. On a la mémoire d'autres descriptions du ciel dans quelques autres cartographies, mais elles sont pratiquement toutes les autres perdues. Alors voilà quelques illustrations de ces mêmes constellations qu'on va retrouver. Et là, il s'agit d'une description d'une carte du XVIIIe siècle avec, au milieu de ces constellations, vous le voyez tout autour, le passage d'une comète. Vous avez vu tout à l'heure une grande comète comme celle de Macnaug. Et bien là, on voit les différents états de la comète selon les jours. Et puis, sa trajectoire au milieu, vous la voyez. Elle a traversé le ciel selon cette trajectoire. Et selon les jours, elle a changé de forme. Voilà une des plus belles vues de l'ensemble de nos constellations que nous partageons avec à peu près toutes les sociétés contemporaines. Il s'agit là du plafond de la Villa Farnèse à Naples, une peinture absolument extraordinaire. Vous reconnaissez en haut les deux ours, entre les deux l'espèce de serpent, c'est le dragon. En dessous, les chiens de chasse, et vous reconnaissez donc toutes les constellations qui nous servent aujourd'hui. On a essayé quand même de sortir de ces constellations-là, et voilà un effort méritoire à noter au XVIIe siècle d'un ciel chrétien. Le ciel chrétien n'a pas tenu parce que dans les grandes religions du livre, comme vous le savez, il n'est pas bien vu de faire des représentations idolâtres des dieux. Et donc, ces représentations du ciel, où vous voyez l'Arche de Noé en bas, par exemple, n'ont pas été autorisées par les autorités religieuses. Et donc, finalement, c'est pour ça que nous avons gardé des cieux païens. Nous avons un sagittaire, un bélier, nous avons une vierge qui n'est pas chrétienne, nous avons une Andromède, un Persée, une tête de méduse, une couronne boréale. Et nous avons des instruments scientifiques dans l'hémisphère sud qui ont été rajoutés après, parce que les principales religions modernes n'ont pas accepté d'être représentées dans le ciel. Et donc ces cartographies-là, ça c'est Cellarius, ces représentations ont été interdites et elles ne se sont pas du tout généralisées. On revient beaucoup plus loin. Nous sommes en 1600 avant l'ère chrétienne, quelque part en Basse-Saxe, et c'est ce que l'on croit être aujourd'hui la plus ancienne représentation du ciel. Cet objet est un disque en bronze de 50 cm de diamètre. C'est une grosse assiette. Hein. Elle a été découverte, enfin elle a été récupérée aux mains de pilleurs de sites archéologiques qui essayaient de la revendre en Suisse, cher d'ailleurs, et elle a été saisie par Interpol et ensuite expertisée. On pense être à peu près sûr qu'il s'agit de bronze de 1600 avant l'ère chrétienne, qui vient bien au mélange des isotopes, qu'il provient bien de Basse-Saxe, et il provient d'une zone où il n'y avait que des barbares hirsutes et chevelus qui se tapaient sur la tête à coups de massue et qui évidemment n'avaient aucune intelligence, au dire de la plupart des spécialistes de l'archéologie contemporaine. Et n'empêche que ces braves gens utilisaient ça. On est à peu près sûr qu'il doit s'agir de la Lune et du Soleil. Beaucoup de gens voient sur ce petit groupe-là la constellation des Pléiades, qui est un groupe bien frappant dans le ciel occidental. Et beaucoup de gens s'interrogent sur la banane du bas, en pensant qu'il s'agit comme par hasard du vaisseau du Soleil, que vous avez vu tout à l'heure sous la déesse Nout, et qui est le bateau que prend le soleil pour rentrer, une fois qu'il s'est couché, pour se préparer à se lever le lendemain. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en Basse-Saxe, nos ancêtres hirsutes chevelus qui se tapaient dessus à coups de massue étaient parfaitement au courant du soleil égyptien et de la barque qu'ils prenaient, et qu'ils étaient sans doute peut-être hirsutes, mais qu'ils devaient avoir des moyens de communication et des liens avec ce qui se passait ailleurs dans le monde. D'autant que ce que l'on voit de part et d'autre sur la gauche et sur la droite, ces petits arcs de cercle, on est à peu près sûr qu'ils correspondent aux écarts entre le soleil qui se lève en hiver et le soleil qui se lève en été. Si on se met, si on met le disque à l'horizontale et qu'on vise dans une direction, il y a un angle. Si on attend quelques mois, on vise dans une autre direction. Et cet écart d'angle correspond aux écarts entre le lever et le coucher du soleil au maximum de l'hiver, c'est-à-dire au solstice d'hiver, et au maximum de l'été, c'est-à-dire au solstice d'été. Pour être plus clair, c'est ça le dessin. Vous avez au centre un ancêtre hirsute et chevelu, assis sur une chaise, et quand il s'assoit au milieu de sa forêt de Basse-Saxe, il constate que le soleil ne se lève pas au même endroit en hiver, et il va monter moins haut dans le ciel, c'est le solstice d'hiver. Le soleil se lève là, il culmine pas très haut, il se couche là. Et en été, il se lève beaucoup plus en arrière, beaucoup plus vers le nord, il monte beaucoup plus dans le ciel, et il se couche beaucoup plus par là. Et les angles qu'on voit sur le disque de Nebra, vous imaginez que ça, c'est la grande soucoupe à manger des nouilles. Et ici, vous avez les angles qu'on a vus sur le disque tout à l'heure. Je vous le remontre. Donc on pense que ça, effectivement, ça se mettait à plat, et comme ça, vous pouvez vérifier que vous étiez au maximum de l'hiver, ou que ça allait être bientôt le maximum de l'hiver. Je ne sais pas si ça servait aussi à fixer les micros, sans doute. Donc, l'ancêtre hirsute et chevelu avait une parfaite connaissance des mouvements du soleil, et de la façon de s'en servir pour décider des moments où il allait falloir cultiver, semer, etc. On pense d'ailleurs que c'est exactement la même chose qui était le motif, on pensait que c'était le même motif qui amenait à créer des grands mégalithes comme Stonehenge. Ça, on est maintenant au centre de l'Angleterre, pas si loin de Londres que ça d'ailleurs, et on est dans une construction mégalithique d'énormes pierres qui font chacune 20 tonnes et qui constituent visiblement des repères pour noter des angles. On pense aujourd'hui que, évidemment, ça servait de calendrier, non pas exactement de calendrier, mais même de vérificateur du calendrier, pour vérifier que l'on était bien arrivé au maximum de l'hiver ou au maximum de l'été. Et donc Stonehenge est un système qui se mettait autour, au centre duquel se mettait l'observateur, druide, chaman, président de la République ou tout ce que vous voulez, et il exerçait son pouvoir de là. Il y a encore des mégalithes et des systèmes de comptage dont on ne sait pas grand-chose. Pour ceux qui connaissent les alignements de Carnac, voilà un des grands alignements de Carnac. 1200 menhirs alignés dont on ne sait pas vraiment comment ils se lisent. On a quand même à peu près la certitude que c'est pas simplement un grand cours de dentisterie et qu'il s'agit pas de compter les dents des mammouths. On pense que sans doute il s'agissait certainement de quelque chose d'assez utile vu le boulot qu'on a fait pour le maître. Maintenant, on n'a pas aujourd'hui d'explication satisfaisante sur la fonction de l'objet. Il n'y a pas que des pierres, il n'y a pas que des grands disques en bronze abandonnés au milieu de la forêt par des indigènes violents et barbus. Il n'y a pas que des mégalithes comme à Stonehenge. Il y a des villes entières qui sont construites en fonction de l'analyse du ciel et de ce qui s'y passe. Là, on est sur le Machu Picchu au Pérou, dans une ville qui est entièrement construite autour du temple du soleil, du temple de la lune, et qui s'organise sur une architecture concentrée sur la lecture du ciel et l'organisation de la vie autour du temps donné par le ciel. Tout ça pour vous dire que effectivement, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le ciel, et qu'effectivement, tous les êtres humains, ou la grande majorité d'entre eux, ont construit ces représentations-là. Ce que je vous disais tout à l'heure en commençant, c'est qu'il y a dans ce regard sur le ciel, il y a quand même une grande rupture à noter. C'est le moment où on a compris qu'on était dedans. Dans tout ce qu'on a vu là, on a des instruments, on dessine le ciel qui nous domine, nous sommes sur Terre, et au-dessus, la déesse déroule son corps sur lequel sont peintes les étoiles. Nous sommes au centre du monde et nous regardons vers où va se lever le soleil, parce que la crue du fleuve va arriver, la fonte des neiges va arriver, etc. Mais nous sommes dans un système surplombé par un ciel qu'on imagine comme étant aussi localisé que le corps de la déesse, ou un écran sur lequel se déplacent quelques planètes, le soleil et la lune. Et la grande rupture dans la représentation, c'est l'idée que finalement, c'est peut-être en relief. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape où on a compris, et ça c'est assez vite, c'est 3000, 4000 ans par rapport à nous, que les planètes bougent et que sans doute elles sont assez près de nous. Alors est-ce qu'on comprend que le Soleil est au centre et que nous on est juste une des planètes? Ça on a mis pas mal de temps à le comprendre. On l'a compris plusieurs fois. Hein. On l'a compris avant Copernic, puis on l'a recompris avec Copernic. Puis il y a des moments où on s'est un peu battu sur cette idée. Bon, mais ça on a compris, disons relativement vite, qu'il y a un mécanisme dans lequel on est et où des choses tournent autour de nous. Les planètes, en grec planétos, ce sont les astres errants, donc ils sont devant nous. Et derrière, c'est ce qu'on a appelé la sphère des fixes, c'est le corps de la déesse, c'est l'endroit où sont dessinées les étoiles, la Voie lactée, etc. Et comprendre que finalement, il y a des étoiles comme le Soleil, que nous sommes une étoile particulière, et que nous sommes quelque part à l'intérieur du système et pas forcément à une place centrale et pas forcément un observateur particulier, ça c'est la vision scientifique qui débute à la Renaissance. Et tout d'un coup, on n'est plus dans la contemplation du ciel, on est à l'intérieur d'un espace qu'on peut explorer. Alors, je vais maintenant vous donner quand même la solution du quiz que je vous avais posé tout à l'heure. Je vous ai évidemment pas commenté les images, mais je vais vous donner l'explication que aujourd'hui, maintenant qu'on a franchi le miroir et qu'on a donné des explications aux phénomènes qu'on voit, je vous donne les explications de ce que vous avez vu. Donc les éclipses, ça c'est très simple, hein. En gros, il y a quelque chose qui fait ombre. En l'occurrence, la Terre se positionne entre la Lune et le Soleil, et donc la Lune rentre dans l'ombre. J'en profite pour vous donner rendez-vous le 3 mars au soir, puisqu'il y aura une grande éclipse de Lune entièrement visible vers 23 heures, c'est ça ? Donc il y aura un grand site d'observation à la Cité internationale universitaire côté Parc Montsouris pour observer en direct le phénomène que vous voyez là, c'est-à-dire l'ombre de la Terre qui s'interpose, qui se projette sur la Lune, et la Lune qui, au lieu d'être pleine comme elle devrait l'être, va disparaître et être éclairée ici simplement par de la lumière un peu diffusée par l'atmosphère de la Terre, donc beaucoup plus rouge. Donc ça, maintenant, on connaît ça par cœur. On sait expliquer les éclipses. Pardon, excusez-moi, je suis allé un tout petit peu trop vite. On sait expliquer les éclipses, et je ne sais pas si vous avez suivi les redécouvertes récentes. On avait découvert dans les années 50 un objet très bizarre dans les îles grecques, à côté d'Anticythère, qui est une île grecque. On avait découvert dans les vestiges d'un bateau coulé un mécanisme très bizarre qui était daté de largement avant le début de l'ère chrétienne et dont on se demandait ce que c'était, qui comporte des roues dentées, des flèches, quatre cadrans, etc. Et on vient de démontrer il y a quelques mois qu'il s'agit d'une machine à calculer et à prédire les éclipses. Qui permettait de calculer selon ce que les scientifiques de l'époque d'ailleurs appelaient déjà le cycle du Saros, qui permettent de calculer si la lunaison sera marquée par une éclipse ou pas, s'il y aura une éclipse de soleil ou de lune, non pas l'endroit où on la voit, mais au moins s'il y en a une ou pas. Et donc ce phénomène des éclipses, il est connu et même calculé depuis plusieurs millénaires. Ce qui est beaucoup plus récent, c'est de savoir ce qu'il y a sur la Lune. On a compris les éclipses très vite, mais la représentation qu'on avait, c'est que la Lune était un miroir de la Terre. Et ça rejoint un peu l'idée que je développais tout à l'heure de dire qu'on n'imaginait pas qu'on était à l'intérieur de l'espace. On imaginait qu'on assistait à un spectacle. Et le fait qu'il faille regarder les astres en eux-mêmes n'était pas une idée répandue. Ce qui est très frappant, c'est que, en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent, on avait inventé la loupe d'une manière très antérieure à la première observation au télescope. Les loupes datent d'à peu près de la période romaine. On se servait de la loupe pour quelque chose d'extrêmement utile, tailler les diamants. Ce qui est évidemment une activité extrêmement fructueuse, et contrôler les diamants. Les diamantaires possédaient des loupes avec du verre, hein, le verre... était évidemment très très répandu, et on a attendu en gros 15 siècles avant qu'un pauvre homme, Galiléo Galilée en l'occurrence, alors je ne sais pas, peut-être d'autres l'ont fait avant lui, mais en tout cas on ne l'a pas su, hein. En tout cas il y a un type 15 siècles ou 20 siècles après la mise en place des loupes qui a eu l'idée de regarder les astres avec les loupes. Avant on regardait les diamants, mais pas les diamants dans le ciel. Et on ne regardait pas dans le ciel parce que personne n'imaginait. Cela dit, je vous dis ça, j'y étais pas. Hein. Ce qui se dit, ce que disent les ethnologues et ce que disent les historiens, c'est que personne n'avait imaginé que ça présentait un intérêt de regarder ce qu'on voyait dans le ciel à la loupe. Évidemment, puisque c'était quelque chose qui se déroulait devant lequel passaient des planètes. Bon, c'était des points, c'était des repères, tout ça tournait. Mais l'idée que ça puisse avoir un intérêt d'aller voir comment c'était fait n'était pas venue. Et le premier à l'avoir fait, c'est effectivement Galiléo Galilée. Ça, ce sont des extraits de son livre qui fit scandale à l'époque, Sidereus Nuncius, le messager des étoiles, qui lui a valu quelques difficultés avec l'Église de l'époque. Et Galiléo Galilée, ce qu'il avait vu, c'est que, eh bien, la Lune n'était pas simplement une sphère métallique qui reflétait la Terre, mais qu'il y avait visiblement des détails. Qu'avec la petite loupe, alors j'exagère un peu, il y avait quand même un truc à faire, ça a mis 15 siècles parce qu'il fallait avoir l'idée d'utiliser deux loupes. Il fallait mettre une grosse loupe devant, une petite loupe devant pour que ça fasse un truc grossissant, sinon on voyait flou. Hein. Donc ça explique quand même qu'on ait mis 15 siècles avant d'inventer le truc, mais enfin bon. Je vais pas leur en vouloir, hein, ce sont nos ancêtres. Donc lui, il a vu quelque chose qui ressemble à ça, alors je vais essayer un truc très audacieux. Je vais lui dire oui. Hein. Donc voilà ce qu'il a fait. Il a regardé dans sa loupe et il a vu qu'il y avait des détails sur la Lune. Donc ça, c'est un morceau de la Lune, en l'occurrence c'est la chaîne des Alpes. C'est lui qui a donné ce nom-là, parce que, d'ailleurs c'est Hévelius quelques années après, mais lui il a dit que ça ressemblait aux montagnes. Il a vu qu'il y avait une grande vallée, qu'il y avait des espèces de cratères. Il a vu qu'il y avait des montagnes, il y avait un petit sommet blanc. Il a compris assez vite que ces détails ne bougeaient pas sur la Lune, en fait. La façon dont c'était éclairé sur les lunaisons changeait, mais il voyait tous ces détails, et il a donc dit, finalement, la Lune est un astre semblable à la Terre, elle a des chaînes de montagnes, etc. Là, c'est la magie, ça remarche. Voilà. Alors, assez vite, d'ailleurs, on a du coup fait des cartes très détaillées. Ça, c'est un moment très intéressant de l'histoire. Malheureusement, la résolution ne vous permet pas de rentrer dans le détail, mais si vous vous approchiez, vous verriez la compétition historique entre le Danois Hévelius et l'Italien catholique pratiquant Riccioli. Le Danois Hévelius, il était partisan, c'est la même lune. Mais il avait fait une carte de la Lune qui était uniquement composée de noms terrestres. Ici, vous avez le mont Sinaï. Ici, vous avez la Sicile. Ça, c'est la mer Méditerranée. Comme c'était noir, on pensait que c'était de l'eau. Hein. Et Riccioli, lui, qui était un bon catholique, pensait quand même qu'il fallait plutôt mettre des noms de personnages célèbres, il fallait en profiter pour honorer des gens, et que le fait de dire que la Terre est... la Lune était bêtement l'image de la Terre, c'était quand même un peu gonflé. Et donc là, vous avez la Lune d'aujourd'hui, c'est celle qu'on a gardée, hein, où vous avez ici la mer des pluies, l'océan des tempêtes, la mer de la sérénité, de la tranquillité et de la fécondité. Et puis, ici, la Sicile est devenue le cratère Copernic, en l'honneur du grand Copernic. Ici, vous avez Tycho, cratère Tycho, qui remplace les noms terrestres. Je ne sais pas très bien dans le détail, d'ailleurs, pourquoi, si je pense que la puissance de l'Église catholique a dû l'emporter très nettement sur le pauvre Danois Hévelius, que les protestants n'ont pas réussi à gagner le truc. En tout cas, c'est ça qui a déterminé, c'est à l'issue de ce conflit-là que nous avons gagné une lune avec une mer de la tranquillité et que les Américains ont pu se poser sur la mer de la tranquillité et non pas...
Il se serait posé au pont Euxin.
Ça a changé le monde, quand même. C'était un peu prémonitoire, d'ailleurs. Bon, voilà ce qu'a vu Galilée. En plus, il a vu, quand même, ça c'est une vraie lunaison, c'est une composition de plusieurs images de la Lune à chaque jour d'intervalle. Et vous voyez qu'en fait, la Lune nous paraît à peu près toujours présenter la même face vers nous, mais en fait, elle se dandine un peu. En fait, la Lune présente toujours la même face à la Terre parce qu'elle tourne autour de la Terre, elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre, et donc c'est toujours la même face qui est tournée vers nous. En comprenant ces mécanismes de rotation, on a très facilement compris que toutes les planètes tournent autour de la Terre, on a compris... à quelle distance elles étaient. On a mis le Soleil au centre du système et on a compris que c'était quand même plus simple d'imaginer que tout ça tournait. On a trouvé qu'il y avait des lois, qu'il y avait des proportionnalités relativement simples entre le temps que mettait une planète à tourner autour du Soleil et sa distance au Soleil. C'est Kepler qui a décrit ces lois-là. Et ces lois sont tellement performantes que c'est elles qui ont permis, quelques siècles plus tard, d'envoyer des sondes spatiales comme les sondes Voyager et les sondes Pioneer, faire des images absolument incroyables. Le petit clin d'œil, c'est que Galilée, lui, avait regardé non seulement la Lune, mais aussi les planètes. Il avait constaté que les planètes n'étaient pas seulement des points, et il avait découvert, comme vous le voyez sur l'image bleue, que Jupiter avait... des satellites, comme la Terre a une Lune. Ces satellites s'appellent maintenant des satellites galiléens en sa mémoire. L'image que vous avez d'ailleurs à gauche est une image réelle. Hein. C'est une image d'un rapprochement dans le ciel, par hasard, entre la Lune qui est beaucoup plus près et Jupiter qui est derrière. Et on voit à l'échelle réelle, où on le voit dans un télescope, les satellites galiléens par rapport à la taille de la Lune. Donc on a compris très bien comment tout ce système-là fonctionnait. Et maintenant, on a une très belle vision de la composition et de l'organisation des planètes du système solaire. Vu l'heure, je ne rentrerai pas dans le détail de savoir s'il y en a 8, 10 ou 20 000. Là, vous avez les 8 plus grosses. On avait déjà enlevé Pluton, bien que ce soit une photo antérieure. Il y a un photomontage antérieur. On a mis la Lune à côté de la Terre, par gentillesse, je pense. Et vous avez, sinon, en haut, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà, je vous ai montré un rapprochement très sympathique de Jupiter à côté de la Lune. Il y a des moments où Saturne passe derrière la Lune. Alors d'abord, c'est génial. Là, vous voyez qu'elle passe derrière le bord pas éclairé. La Lune n'est pas complètement pleine. Il y a un petit bord qui est encore dans l'ombre. Et en plus, Saturne passe derrière. Ce qui est génial, c'est la capacité qu'on a aujourd'hui à prévoir de tels phénomènes, bien à l'avance, ce qui permet à des photographes émérites comme Emmanuel Baudouin de les photographier, et puis ce qui donne des spectacles inoubliables. Et il y a très bientôt, c'est quand d'ailleurs, le 2 mars, mais voilà, la veille du, merci Eric, la veille du 3 mars, vous avez un rapprochement de Saturne et la Lune, donc une bonne paire de jumelles ou un petit télescope. Bon, je continue sur ce qu'on sait. On sait que tout ce qu'on a vu tout à l'heure de détonnant dans le ciel, on a à peu près trouvé l'explication. Donc les étoiles filantes, ça ne fait plus peur à personne de nos jours dans nos sociétés modernes. On sait que ce sont des petites poussières qui brûlent en rentrant dans la atmosphère terrestre. On le sait d'autant plus que maintenant, on a jeté d'autres trucs qui brûlent en rentrant. Des morceaux de satellites, des fusées, des boulons, des machins, des trucs. Et donc maintenant, ça nous impressionne plus, puisque l'humain sait lui-même faire ses propres étoiles filantes. Les comètes, vous avez vu tout à l'heure l'extraordinaire MacNaug. Les comètes, maintenant, on croit savoir ce que c'est. On pense que ce sont d'énormes boules de neige qui viennent d'un réservoir, d'une espèce de congélateur qui entoure, qui est très loin du Soleil, donc dans lequel il fait extrêmement froid et dans lequel restent des traces de la formation du système solaire. Et ces boules de neige, normalement, restent sur des orbites très lointaines du Soleil, donc elles restent congelées. Et puis, un jour, de temps en temps, comme ça, à cause de perturbations locales ou de simplement d'orbites très très lentes, certaines d'entre elles peuvent passer beaucoup plus près du Soleil, exactement comme un morceau de poisson pané peut sortir du congélateur, et à ce moment-là, elles se rapprochent du Soleil, elles fondent, elles perdent du gaz, ce qui donne une queue qui est très très bleue, et elles perdent aussi la chapelure dans le poisson pané, je crois, hein, la poussière, parce qu'il y a des boules de neige sales, et donc elles perdent d'une part une queue de gaz, qui est la vapeur d'eau, l'oxygène, l'hydrogène qui s'en va dans un sens, et elle sème derrière elle de la poussière qui était à l'intérieur de la boule de glace. Ce qui fait que c'est exactement comme une voiture qui dérape dans un virage. Elle perd de la gomme le long de sa trajectoire, et si elle a un échappement qui fume, il n'est pas exactement dans la même direction que la trajectoire des pneus. Je vois Eric qui est largué dans mon explication. Enfin bref, ça, la queue de poussière n'est pas dans l'axe de la queue de gaz. On va pas. Voilà. Là, c'est une photo absolument extraordinaire donc, de cette incroyable comète. En fait, le noyau de la comète
est déjà couché sous l'horizon. Il est là. Et là, il y a une énorme queue de la comète. Et en plus, elle est striée parce qu'elle a perdu de la poussière. Sans doute, elle tourne. Si vous voulez, c'est un poisson pané avec plus de chapelure d'un côté. La boule de glace doit avoir plus de poussière d'un côté que de l'autre. Donc elle tourne et elle perd de la poussière sous forme de panache qui tourne, un peu comme des faisceaux, si vous voulez. Donc je vous dis ça, mais c'est mon interprétation personnelle. J'ai rencontré une personne qui avait été. Hein, pour l'instant, les publications ne sont pas sorties. Mais si vous avez une autre explication, je suis preneur. Donc le noyau de la comète est là. La queue est striée comme ça. Et en plus, comme par hasard. Alors là, j'avoue, c'est pas une étoile filante, c'est la station internationale ISS. C'est un satellite artificiel terrestre qui est passé dessus. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Ça aurait pu être une pluie d'étoiles filantes aussi. Et ça, c'est l'accumulation de la comète MacNaug. Si vous la regardez de plus près, on la voit encore un peu striée. Une ville de Nouvelle-Zélande que je ne citerai pas. Et
un phénomène d'aurore boréale, enfin d'aurore australe, là, en l'occurrence, d'aurore polaire, qui illumine le ciel.
Et pour ceux qui ont habité dans l'hémisphère sud, vous reconnaissez le grand nuage et le petit nuage de Magellan.
Donc ça, c'est entre nous. Hein. Ça, c'est un moment historique. C'est la collision de la planète Jupiter par une comète. Ça s'est passé le 11 août, combien ? 11 juillet, non ? 11 juillet 94. Et il y a une comète, un peu comme celle que vous venez de voir, donc une énorme boule de glace, qui a heurté Jupiter. En s'approchant de Jupiter, elle s'est fragmentée en morceaux. Il y avait 21 morceaux séparément. À cause de l'attraction de Jupiter, la boule a explosé, si vous voulez. Et elle a heurté la planète. Et, c'est, voilà. Et là, on voit les impacts des chocs. Et pour vous donner une idée de ce qu'est Jupiter, en même temps, j'ai donné une image classique de Jupiter. Jupiter, en fait, c'est une énorme planète, beaucoup plus grosse que la Terre. Il n'y a pas de surface solide. Il y a des espèces de vents alizés très très importants avec d'énormes nuages. Et en permanence, vous voyez ces bandes-là. Et ça s'est arrêté, c'est pas sympa ça. Pourquoi ça s'est arrêté ? Ça s'arrête quand je fais la démonstration, c'est pas sympa du tout. Je ne peux me laisser avoir. Là, ça va repartir, non ? Non ? Bon. Enfin, ça tournait. Et ça tourne parce qu'il y a d'énormes courants d'air dans les nuages, en quelque sorte, et il y a des phénomènes d'engrenage entre les couches nuageuses. Là, vous avez une zone agrandie, c'est les impacts. Donc, la comète, les morceaux de la comète sont tombés dans la couche nuageuse, et ils ont fait d'énormes impacts. C'est à peu près la taille de la Terre, pour vous donner une idée. C'est à peu près comme ça. Et ça fait d'énormes impacts comme ça qui ont été visibles pendant plusieurs mois à la surface de Jupiter. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les aurores polaires. Je vous en ai remontré une avec la comète McNaught. Maintenant, on sait très bien ce que c'est. On sait que c'est le rayonnement du Soleil, les émissions du Soleil, qui sont piégées dans le champ magnétique terrestre, qui interagissent avec l'atmosphère terrestre et qui produisent une émission lumineuse. Et alors, voilà même quelque chose de très très beau qu'on doit à la NASA. Alors là, il y a une manip à faire, c'est terrible. Ça va pas marcher du tout. Oui, je veux ouvrir ce fichier. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne veux pas me le faire. Hein. Si je faisais play. Nouvelle lecture, incroyable. Voilà. Je ne veux pas le lire, hein. Bon, bah tant pis alors. C'est une image, vous la verrez qu'en fixe, hein, c'est une image d'une aurore boréale, d'une aurore polaire, donc de la luminosité du rayonnement solaire piégé dans l'atmosphère terrestre, vue d'un satellite artificiel. Donc on est au-dessus de la Terre, et là vous auriez vu l'aurore elle-même. Je suis absolument désolé, mais je vous la montrerai une autre fois. Voilà, exactement. Non, mais voilà. Comme quoi, il ne faut jamais se décourager. Hein. Voilà, donc là, vous l'avez vu. Alors, c'est accéléré. Hein. Ça dure plusieurs heures. Vous avez vu quelques images accélérées prises depuis une station spatiale. Simplement, c'est ça qu'on voit depuis la Terre, qu'on croit voir dans le ciel. En fait, c'est un phénomène à la surface de la Terre, qui sont les rayonnements solaires piégés. Et évidemment, vous imaginez que si vous êtes un Inuit qui vit, un Inuit, donc un habitant du Groenland, qui vit avec ces images au-dessus de votre tête à longueur de nuit, puisque c'est très fréquent dans les régions polaires, c'est quand même facile de comprendre que c'est l'âme des morts qui s'envole. Ça paraît quand même l'explication la plus rationnelle à ce qu'on voit. D'autant qu'avec le climat qu'il fait... Bref. Et voilà, pour la beauté du geste, des aurores polaires sur Saturne, vues depuis un voyageur, je ne sais pas si quelle est la sonde qui a fait ces images, je pense que c'est un voyageur. Alors, on on sait, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes environnés de milliards d'étoiles comparables à notre Soleil. On sait que ces étoiles sont nées par condensation de gaz et que c'est des zones comme celles qu'on voyait tout à l'heure dans la constellation d'Orion, une petite tache rouge qu'on devine comme un point lumineux à la limite à l'œil nu, que c'est dans ces zones-là, aujourd'hui, on sait que c'est dans ces zones-là que naissent les étoiles. Et en fait, on sait maintenant que nous sommes à l'intérieur d'un système dans lequel nous sommes environnés d'étoiles qui sont nées dans ce genre de lieu. Et ça permet de se promener. Voilà une balade. Je vais vous la laisser que quelques instants. Voilà, là on s'approche de la constellation d'Orion. En fait, nous sommes... C'est comme si on quittait la Terre dans un vaisseau spatial. On s'approche de la zone dans laquelle naissent les étoiles. Et en fait, il y a des bulles. Il y a des bulles de gaz comme ça, dans lesquelles il y a des pépinières d'étoiles. C'est évidemment un trucage. Vous avez bien compris que personne n'a été réellement là. C'est une animation. En fait, c'est très simple. Hein, c'est une animation 3D. Les photos qui sont incluses sont des photos prises depuis la Terre. Chacun des détails. Là, voilà une nébuleuse que l'on peut très bien voir de la Terre, une zone dans laquelle se forment des étoiles. Et simplement, on a animé les étoiles au premier plan pour donner l'impression qu'on les traverse. Mais ça ressemblerait à l'impression que l'on aurait si on se déplaçait vraiment à l'intérieur de notre système. Voilà. Et là, on s'approche de la Voie lactée, qui est la zone dans laquelle il y a une énorme densité d'étoiles. Et qui est le grand système au sein duquel nous nous trouvons. Vous arrêtez ça, je vous la repasserai tout à l'heure. Je ne sais pas si je sais l'arrêter. Je vais appuyer là, hein, ça va l'arrêter, voilà. Je continuerai tout à l'heure. Donc, pour faire la synthèse de ce qu'on sait... des images qu'on a vues tout à l'heure, on sait comment naissent les étoiles, on sait qu'ils naissent dans des systèmes comme ça, par condensation du gaz. On a photographié sur toutes les coutures, fait des images sur toutes les coutures de ces boules de gaz, en fait, ces zones de gaz dans lesquelles naissent les étoiles. Et tout ça, ce sont des images faites avec les grands télescopes actuels. Voilà, les piliers de la création, pour ceux qui les connaîtraient, au centre de la nébuleuse Messier 16 dans l'Aigle. C'est des zones dans lesquelles il y a aujourd'hui, on observe des formations d'étoiles. Quand je dis qu'on observe des formations d'étoiles, la formation d'une étoile comme le Soleil, c'est quelques dizaines ou centaines de millions d'années. Donc ce qu'on voit, c'est des étoiles à différents stades de formation. On voit des proto, ce qu'on appelle des proto-étoiles, c'est-à-dire des systèmes qui pulsent, qui sont en train de se concentrer, etc. Donc voilà les zones dans lesquelles maintenant on a la conviction que se forment des étoiles. Et on sait que les étoiles meurent. On sait que le Soleil a 5 milliards d'années et qu'il va mourir dans sans doute 5 milliards d'années et qu'il va mourir entre guillemets, désolé pour l'anthropocentrisme, mourir entre guillemets d'une explosion. Et voilà quelques étoiles dont on pense que nous voyons les sépultures. Donc des étoiles qu'on appelle des étoiles mortes qui sont au centre d'un système de cendres qui reste de l'explosion. Pardon, excusez-moi, je reviens d'un arrière. Juste un mot là-dessus. Je reviens sur la précédente. Juste un mot pour vous dire que selon la violence du décès, si j'ose dire, les cendres des étoiles sont plus ou moins symétriques. Vous avez des explosions énormes qui se sont... Elles sont toujours énormes à l'échelle humaine, hein, mais encore plus énormes alors. Donc vous avez des explosions qui sont symétriques et où seulement l'atmosphère extérieure de l'étoile a explosé. Ça donne une belle bulle bien claire avec plusieurs images concentriques. Et puis vous avez des explosions beaucoup plus désorganisées, si j'ose dire, où il y a beaucoup moins de symétrie, etc. Évidemment, pour emprunter une image aussi anthropocentrique, la vie est un éternel recommencement. Donc nous avons la conviction aujourd'hui, ou les astronomes ont la conviction aujourd'hui, que les cendres des étoiles sont réutilisées par les étoiles nouvelles qui naissent. Et on pense dans la théorie de la formation des étoiles d'aujourd'hui que l'existence d'atomes lourds, de composants lourds dans les étoiles comme le Soleil vient du fait que ces composants ont été formés dans l'explosion des étoiles précédentes. C'est la célèbre expression que nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Bon, pour finir sur la description de l'univers, en gros, on sait donc que les étoiles naissent et meurent comme on vient de le décrire, et on sait que nous sommes dans un système énorme d'étoiles, 200 ou 300 milliards d'étoiles, dans lequel nous sommes assez concentrés, et dans la trace dans le ciel et la Voie lactée. Voilà. Et nous savons qu'il y a d'autres voies lactées que nous voyons de l'extérieur qui contiennent des centaines de milliards d'étoiles comme la nôtre. La plus proche voie lactée vue de l'extérieur, c'est cette galaxie d'Andromède. La lumière met 2 milliards d'années à en provenir. Et on en connaît plein d'autres. Voilà d'autres galaxies semblables à notre voie lactée vue de l'extérieur. Non seulement on en connaît plein d'autres, mais on connaît des groupes de galaxies. Donc voilà une belle zone avec quelques galaxies à différentes distances. En gros, on pense qu'elles ont globalement, elles sont quand même à peu près de taille comparable. C'est quand même assez gros, quoi, globalement. Donc plus elles sont petites, plus ça veut dire qu'elles sont loin. Et voilà un fond du ciel avec des petites galaxies qui se baladent un peu partout. Vu l'heure, je ne vous commenterai pas les beaux arcs que l'on voit, mais ce sont des images déformées des galaxies par les galaxies qui sont devant. Ce sont ce que l'on appelle entre nous par leur petit nom des mirages gravitationnels. Et on suppose maintenant, en regardant le fond de l'univers, en regardant entre les galaxies, on suppose aujourd'hui que l'univers n'a pas existé de toute éternité. On constate que les galaxies semblent s'éloigner les unes des autres. Et le modèle dans lequel on vit actuellement consiste à dire que, sans doute, l'ensemble de la matière et de l'énergie de l'univers était rassemblé en une toute petite zone il y a 13,7 milliards d'années. Et on pense que l'ensemble de l'univers était rassemblé en un point il y a 13 milliards d'années et qu'il reste des traces de l'explosion primordiale et qu'en mesurant l'énergie que nous envoie le fond du ciel, ce qu'on voit au-delà des galaxies dans toutes les directions, on constate que le fond de l'univers n'est pas complètement froid et on pense que c'est une preuve du fait qu'il y a eu une explosion primordiale et on estime le moment à 13,7 milliards d'années. En résumé, on est passé d'un ciel des fixes, miroir de cristal, écran sur lequel on projetait nos divinités, etc., à un espace dans lequel on se meut, dans lequel on est, nous, la Terre, le Soleil, la Voie lactée, en train de tourner avec des objets qui bougent autour de nous. Et on est passé aussi d'une vision mécaniste du monde. On imaginait des planètes qui tournaient, on se demandait à quel moment on allait pouvoir voir aligner Jupiter et Mars, par exemple, parce qu'on pensait que ça allait marquer une date précise. On faisait des calendriers, on s'intéressait uniquement à la mécanique, on ne regardait pas la physique. On est rentré avec l'époque moderne, avec le 17e, 18e et surtout, enfin 18e et 19e, on s'est mis à s'intéresser à ce qu'on voyait dans le ciel comme un laboratoire dans lequel on pouvait comprendre comment marchaient les systèmes physiques dans lesquels nous vivons. Juste une remarque, on a imaginé à partir de là, on a imaginé que l'univers qu'on voit se comporte comme notre univers quotidien, que les mêmes lois physiques régissent ce qui se passe à la Terre de ma montre que ce qui se passe dans un système de 100 milliards de galaxies contenant 100 milliards d'étoiles qui auraient explosé il y a 13,7 milliards d'années. Mais ça, c'est une hypothèse. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à continuer à rendre cohérente la théorie du Big Bang. C'est quand même très satisfaisant de se dire qu'il y a eu une explosion primordiale, que l'univers est né à 13,7 milliards d'années, que ça s'est passé comme ci, comme ça, et machin. Mais en réalité, Ben, on n'a pas vraiment le bon nombre d'étoiles. Si ça s'était vraiment passé comme ça, il manque de l'énergie. Deuxièmement, les galaxies, ben, si on prend la même loi physique que celle qui fait tomber ma montre par terre, ben, on se rend compte que les galaxies, elles ont du mal, elles ne devraient pas avoir cette taille-là, elles ne devraient pas tenir en équilibre. Si la force de gravitation est la même que sur Terre, les galaxies, elles devraient se dilater beaucoup plus vite, par exemple. Donc, il y a des anomalies. Donc, on a construit une représentation du monde, on sait qu'on a le droit de se dire habitant de l'univers et nous déplaçons dans l'espace, mais on continue à construire des représentations qui peuvent être brisées complètement. On a imaginé le Soleil au centre de l'univers après avoir imaginé d'abord la Terre, ensuite on s'est dit que il n'était pas au centre de la Voie lactée, que la Voie lactée n'est pas au centre de l'univers, le Big Bang n'est peut-être qu'une étape dans une représentation. Et du coup, ça pose vraiment la question de ce que l'on appelle la réalité. C'est sûr que, je ne vais pas la casser, mais je vais faire tomber autre chose, mes clés. Bon, c'est sûr que ça va accélérer de 9,80 mètres par seconde si je laisse tomber cette clé USB. Donc je peux vraiment dire que c'est la réalité parce que je l'ai testé suffisamment de fois. Et je me sens autorisé à dire bah, que c'est complètement vrai, il n'y a pas un abruti de scientifique qui va me démontrer que c'est faux et tout d'un coup elle ne va plus tomber ma clé. Et de toute façon, même si on me démontrait que c'est faux, en fait ce qu'on démontrerait comme faux, c'est l'interprétation qu'on en fait, mais le phénomène physique, je le verrai toujours. En revanche, quand on manipule une théorie du Big Bang ou quand on manipule la distance de la galaxie d'Andromède, c'est pas tout à fait la même chose. La galaxie d'Andromède, elle a doublé de distance parce qu'on avait oublié qu'il y avait des poussières entre 1930 et 1950. Le Big Bang, il est à 13,7 milliards d'années. Tout d'un coup, si on change un tout petit peu un paramètre, il va peut-être changer d'âge complètement. Donc, la science décrit une réalité quand elle est très proche de nous, quand elle est à notre mesure, mais quand elle décrit quelque chose qui est démesuré pour nous, que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand, c'est difficile de se dire que c'est autre chose que des représentations. Et un autre aspect de la limite de l'activité scientifique, c'est se dire que, en fait, ce que l'on peut décrire, c'est pas le pourquoi des choses. Tout ce que je vous ai montré, j'ai fait semblant, j'ai fait le fier, j'ai fait semblant de vous montrer le pourquoi on voit des étoiles filantes, le pourquoi on voit des aurores boréales. Mais en fait, ce que je vous ai dit, c'est comment ça se passe. C'est pas pourquoi ça se passe, je ne sais pas pourquoi il y a des aurores boréales. Je ne sais pas pourquoi l'univers serait né il y a 13,7 milliards d'années. Je pense que dans la théorie actuelle de la gravitation, en se débrouillant un peu avec le 1 sur R2 sur les bords, bah, ça a l'air pas mal de dire que c'est né il y a 13,7 milliards d'années. Mais je ne vais évidemment pas trouver la réponse à savoir pourquoi un dieu, un système qui me dépasse, a créé un univers il y a 13,7 milliards d'années. Donc, en fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et tout ce que dit le scientifique, c'est du comment. Et ce qu'on fait, ce qu'est l'activité scientifique, c'est la mise en évidence de régularité dans les phénomènes, constater que les mêmes planètes reviennent, que les phases de la Lune reviennent. On interprète ça comme des structures, on se dit, bah oui, si les phases de la Lune reviennent, c'est parce qu'elles présentent toujours la même face à la Terre, et machin, et trucs, etc. Tant qu'on est à l'échelle de l'homme, effectivement, on a quand même une description qui est sensible, qui est corroborable dans notre vie au quotidien. Plus on change d'échelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, moins cette description peut être prise comme une vérité, en quelque sorte. Et donc, c'est ce que je vous disais. Notre capacité, c'est de proposer des modèles qui répondent aux questions comment ça marche, comment ça peut s'expliquer, et non aux questions du pourquoi. Ben, voilà un exemple. Là, on est en train, avec des gamins, d'essayer de reconstituer avec une superbe lampe de baladeuse où serait l'étoile filante au-dessus de l'Île-de-France que l'on vient de voir dans le ciel comme ça. Donc ça, on peut se dire, tiens, bah voilà sans doute comment a été produite cette lumière qu'on voit dans le ciel. C'est l'ionisation de la lumière à peu près à cette altitude-là, et donc ça explique le phénomène qu'on a vu. Là, c'est vraiment pas très loin d'ici. Là, on est en train d'essayer de comprendre comment les poussières de la comète, qui tournent autour du Soleil, peuvent produire des étoiles filantes en frottant la Terre. Donc là aussi, on comprend le comment on explique. Comment on explique que l'on voit des étoiles filantes et comment on explique que le 11 août, moment où justement la Terre croise un morceau d'orbite de comète où il y a plein de poussière comme dans une guirlande de Noël, ben ça va produire des petites lumières dans le ciel. Et on peut expliquer que ben finalement ça c'est tout bêtement la Lune qui se lève sur Montreuil, à condition qu'il reste un ciel. Et à condition qu'on n'ait pas au-dessus de nous simplement un ensemble, un catafalque noir qui nous coupe complètement de cette source de réflexion et d'inspiration. Voilà, merci. Je ne sais pas quel est le rite.
Il y a un monsieur qui avait une question tout à l'heure.
Alors, pas de questions. S'il n'y a pas de questions.
En fait, sa question, c'était quel type de lunettes dois-je m'acheter parce que je lis les différentes choses. Et ça, c'est déconseillé, ça, c'est conseillé. Donc, il était un petit peu perdu pour s'acheter une lunette.
Alors, je fais de la pub là. J'en profite puisque Jean-Claude tout à l'heure avait fait une pub remarquée sur la revue Ciel et Espace en kiosque qu'édite l'Association française d'astronomie. Je vous signale que sur notre site cielespace.fr, qui est donc le site de la revue Ciel et Espace et de l'Association française d'astronomie, nous avons des podcasts entièrement gratuits. Téléchargeable ou écoutable normalement avec n'importe quel ordinateur qui a des haut-parleurs qui marchent. Et donc on a en particulier une série sur comment débuter l'observation, quel instrument acquérir, etc. Donc je vous encourage vivement à les télécharger, à les écouter, mais je vais quand même répondre. Je vais pas faire que de la pub pour un truc gratuit. Pour une organisation sans but lucratif en plus. Donc en gros, qu'est-ce qu'on dit? On dit premièrement, le mieux, c'est d'aller voir dans un club ou dans un lieu d'animation ou dans un stage le matériel qui existe. Plutôt que de se précipiter pour acheter n'importe quoi qu'on trouve par hasard comme ça, parce qu'il y a l'air d'avoir des soldes, des machins, se rendre dans un club d'astronomie et passer une soirée ou aller dans un stage à 2-3 étoiles qu'on organise et découvrir les instruments et regarder ce qu'on voit dedans et choisir ensuite après ça, c'est quand même une bonne démarche. D'autant que si on est dans un club, on n'est pas obligé de s'acheter un truc, on peut utiliser le matériel collectif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si malgré tout, on n'a pas vraiment de club à proximité, cela dit, il y en a plus de 500 en France, donc il y en a quand même beaucoup. Si on veut s'acheter quelque chose ou offrir quelque chose, on a tendance à dire, nous, que l'instrument pour débuter, c'est plutôt la paire de jumelles. C'est plutôt la paire de jumelles, non pas que les télescopes servent à rien, mais le gros, ce dont on ne se rend pas compte quand on n'a jamais regardé dans un télescope, c'est que grossir, avoir un instrument qui grossit le ciel, c'est extrêmement problématique. Maintenant, avec les appareils photo, tout le monde a utilisé des téléobjectifs. Vous avez vu que quand on a un gros téléobjectif, c'est impossible de faire une photo nette, parce qu'on tremble comme ça. Quand vous avez un télescope qui grossit 40 fois, vous passez à peu près une heure et demie avant d'arriver à mettre la Lune dedans. Ça, c'est garanti. Hein. Donc, vous avez un torticolis, un rhume, vous vous engueulez avec votre conjoint ou votre conjointe, vous avez vos gamins qui ont froid, et en plus, il s'est mis à pleuvoir. Donc ça, ça rate jamais. Donc, il vaut mieux, en fait, il vaut mieux commencer avec une bonne paire de jumelles, surtout qu'il y avait ceux du grand-père dans le grenier qu'on a récupéré, machin, et que ça coûte pas très cher. Donc là, on voit la Lune, on peut se balader, surtout si on a la chance d'aller dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, on peut voir la Voie lactée, etc. On peut s'installer confortablement. Donc le premier instrument, c'est plutôt celui-là. On dit souvent qu'il faut en même temps une chaise longue, une cafetière, une couverture, un peu de musique et tout ce qu'on veut selon ses croyances. Voilà. Et puis après, le degré, vous choisirez les produits que vous voulez à mettre dans le café. Bon, ça, c'est une chose. Après, on peut s'acheter effectivement un petit télescope ou un gros. Je pense qu'on achèterait un petit. On peut acheter un très gros télescope. Heureusement, maintenant, donc le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un, ça bouge. Et deux, c'est jamais là où vous visez jamais où vous voulez viser. Donc déjà rien que d'arriver à mettre la pub Natexis dans l'axe du truc, je dis Natexis parce qu'il y en a une à côté, c'est vraiment très difficile. Donc il faut acheter un télescope avec un pied vachement solide. C'est aussi important que le télescope. Et il faut un instrument où on peut changer l'oculaire pour pas grossir beaucoup et apprendre à avoir quelque chose dedans d'abord, quoi. Après, il vaut mieux éviter les matériels en promotion dans les grandes surfaces, un peu après Noël, quand on revend tous les trucs dont personne n'a voulu, quoi. Il vaut mieux acheter dans des magasins un peu plus sérieux. Et il faut essayer d'acheter effectivement un instrument proportionné à ce qu'on va faire. C'est pour ça que je fais à nouveau la pub pour les clubs. On trouve des petites lunettes sympas dans lesquelles on voit la lune pas trop mal pour 150 ou 200 euros. On trouve des paires de jumelles à 30 euros, très bien. Bon, et après on trouve la catégorie au-dessus, c'est les nouveaux télescopes à la mode, c'est les télescopes automatiques qui s'appellent le GoTo avec des systèmes de pointage automatique. Ou alors là, à nouveau, vous êtes débarrassé de tous les problèmes. C'est le GPS intégré, le machin, le truc. Mais ça, c'est tout de suite la gamme 1000 à 2000 euros, quoi. Donc c'est plutôt, encore une fois, le club, avec de fortes subventions municipales ou d'autres origines, peut s'en acheter un. C'est pas la peine de s'en acheter un chacun, quoi. Bon, cela dit, si vous voulez vous en acheter un, je ne vais pas vous en empêcher non plus. Voilà.
Merci.
Bon. Eh bien, merci à vous.
Merci à vous, encore merci.
Oui, j'ai un point très important parce que j'ai squeezé la dernière diapo. J'ai oublié les crédits photos, donc je vais vous la mettre quand même. Ah ben, il veut pas. Il n'a pas de mémoire, alors je suis désolé, il s'est planté. Dès que Bill Gates aura fini de jouer avec la mémoire de mon ordinateur, je vous montrerai les crédits photos. Donc la plupart des photos que j'ai passées sont des photos voilà, je vais vous la mettre. Donc la plupart des photos que j'ai passées ici sont des photos empruntées à la NASA, à l'Agence spatiale européenne, à l'European Southern Observatory, à la revue Ciel et Espace et à quelques auteurs spécifiques. Donc les photos de la comète MacNo que j'ai téléchargées cette nuit, j'ai cité leurs auteurs. Et puis, donc, il y en a quelques autres qui avaient les copyrights sur les images. Voilà. Merci.